Passons à un tout autre sujet qui est le ciel. Je voudrais vous faire contempler un petit peu, je l'espère au moins, le bonheur du ciel. Il faut toujours se rappeler le but de la vie, donc même si on cherche à se confesser, ben c'est pour purifier notre âme, dans le but de nous rapprocher de Dieu, vous voyez. Et c'est très important de régulièrement de porter notre regard vers le ciel. Il est aussi important dans la vie spirituelle de méditer aussi sur le purgatoire et sur l'enfer. C'est très important, ce sont aussi de précieux stimulants. Mais c'est certain que la contemplation du ciel doit être un de nos grands moteurs spirituels. C'est évident. Parce que dans le plan de Dieu, vous voyez, on ne va pas au ciel à reculons. Vous voyez, c'est ouf, ça y est, je suis arrivé du bon côté. Vous voyez. Normalement, on doit regarder le ciel et avancer vers le ciel. Vous voyez. Quand vous faites une ascension de la montagne, eh bien, de temps en temps, vous regardez vers le sommet. Le but, c'est d'arriver au sommet, vous voyez. Quand vous faites un voyage, vous êtes fatigué du voyage, vous dites, ça y est, ouf, je sais que dans une heure, je vais arriver, vous voyez. Donc, la perspective du but vous encourage, à avancer. Alors, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Le bon Dieu nous a créés pour le ciel, nous sommes faits pour le ciel. Et donc, c'est important de contempler le ciel. Maintenant, ce qui est bien sûr très compliqué, c'est de contempler quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pas très facile. C'est pas très facile, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a du mal à penser au ciel. Et puis aussi, un autre motif pour certains, c'est peut-être aussi une trop grande attache aussi à ce monde. On est trop attaché au bien de ce monde. Alors on dit, oui, le ciel, oui, mais enfin bon, c'est pour plus tard. Hein. Moi, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi, donc penser au ciel, bon... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle utilisait la pensée du ciel, ou en tout cas la manière dont elle vivait par rapport au ciel, comme un baromètre de ferveur. Vous voyez, quand elle avait la nostalgie du ciel, le désir du ciel, pour elle c'était un signe qu'elle était donc dans la bonne direction. Et au contraire, lorsque elle n'avait plus trop ce désir, ouais, le ciel, bon, et bien là, elle sentait que pour elle, c'était un indice qu'elle n'était pas aussi fervente. Vous voyez. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois aussi des motifs qui ne sont pas forcément les plus nobles d'avoir ce désir du ciel, vous voyez, d'entretenir ce désir du ciel. Parfois, c'est la croix qui est tellement lourde que vivement le ciel qu'on se repose, quoi. Donc, mais c'est vrai aussi d'ailleurs que le bon Dieu utilise ce moyen pour nous faire désirer le ciel. Dans toute vie humaine, il y a des épreuves qui sont plus ou moins lourdes en fonction des âmes, en fonction de l'âge aussi. Hein, donc, les épreuves sont différentes souvent en fonction de l'âge. Et ces épreuves, eh bien, sont là pour nous détacher petit à petit de la terre et nous rapprocher du ciel. Et une épreuve acceptée nous détache un peu plus de la terre et nous rapproche du ciel. On a tendance parfois à vouloir trop s'installer sur la terre. Alors, comme nous ne sommes pas faits pour la terre, mais pour le ciel, eh bien, le bon Dieu permet de secouer le lit un petit peu, où on s'endort, et puis on se retrouve par terre. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette terre ? Vivement le ciel. Charles Foucault écrivait dans une lettre en février 1905... « Les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l'exil et nous faire soupirer après la patrie. » Donc nos épreuves sont là pour nous faire sentir l'exil, nous faire sentir que nous ne sommes pas, que la vraie vie n'est pas le ciel, et nous faire soupirer après la patrie. Et notre Seigneur lui-même a révélé sa stratégie à Sainte Catherine de Sienne. Dans les dialogues, notre Seigneur parle donc à Sainte Catherine de Sienne, et il dit ceci. C'est la quatrième réponse dans les dialogues de Sainte Catherine de Sienne. J'ai voulu détourner l'homme de placer son espérance dans le monde pour l'amener à courir droit à moi qui suis sa fin. Et j'ai pensé que du moins, les coups répétés des tristesses humaines lui apprendraient à placer plus haut son cœur et ses désirs. Vous voyez, comme on a tendance à trop nous attacher à la terre, eh bien le bon Dieu, pour nous détacher de la terre, il permet ses épreuves. Donc les épreuves sont là, si on sait les accepter, eh bien pour nous détacher de la terre et nous rapprocher du ciel. Alors, heureusement que sans attendre les épreuves, des âmes bien nées, des âmes généreuses, des âmes pieuses, qui ont un grand esprit de foi, perçoivent très tôt dans leur vie que le bon Dieu n'a pas attendu le ciel pour nous récompenser. Donc, contempler le ciel nous paraît d'une certaine manière contempler quelque chose de lointain, mais sous un autre rapport, contempler le ciel, c'est contempler quelque chose de proche. Le ciel est dans notre âme, voyez. Si je suis dans l'état de grâce, le ciel est dans mon âme. La bienheureuse Élisabeth de la Trinité le disait, hein, qu'elle avait le ciel dans son âme. Elle dit, le ciel c'est Dieu, j'ai Dieu dans mon âme. Et elle dit, le jour où j'ai compris cela, eh bien, tout a changé pour moi. Et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. Donc le ciel est une réalité lointaine, dans le sens où nous ne sommes pas encore au ciel, mais le ciel, d'une autre manière, est déjà proche de nous, puisque ce bonheur, ce qui fera notre bonheur au ciel, est déjà présent en nous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est au-dedans de vous, nous dit notre Seigneur. Et déjà dans l'Ancien Testament, c'est beau de voir donc les saints de l'Ancien Testament soupirer après le ciel. Ainsi, par exemple, le roi David le chante dans un psaume, « Comme le cerf soupire après les sources des eaux, ainsi mon âme soupire vers vous, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu fort et vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Quand est-ce que je paraîtrai devant la face de Dieu ? Quand est-ce que je pourrai contempler Dieu face à face ? Voilà déjà ce que se demandait le roi David dans le psaume 41, versets 2 et 3. Et dans un autre psaume, il s'exclamait « Mon âme a soif de vous, et combien ma chair aussi est altérée de vous. Dans cette terre déserte et sans chemin et sans eau, c'est ainsi que je me suis présenté devant le sanctuaire pour contempler votre puissance et votre gloire. » Donc on sent en David une âme qui est tendue vers le ciel, une âme qui a vraiment ce désir du ciel, cette soif du ciel. Alors la contemplation de Dieu doit nous aider à nous rapprocher du ciel. Et on constate alors, quand on essaie de réfléchir un tout petit peu à ce qu'est le ciel, eh bien que un des effets, ça doit être de nous détacher du péché et de nous aider à mieux accepter la vie présente. Et Dieu sait si c'est nécessaire pour nous, eh bien, à la fois d'avoir toujours la haine du péché, nous détacher du péché, et puis en même temps aussi mieux accepter, eh bien, les épreuves de la vie. C'est triste de constater que certaines âmes n'observent les commandements de Dieu que comme par regret, quoi. On se dit, il faut encore observer les commandements de Dieu aujourd'hui, oh là là. Donc on a l'impression que pour elles, la loi de Dieu serait un carcan, vous voyez, comme si Dieu limiterait notre liberté. Et ça, c'est toujours le démon qui veut nous faire croire cela. Donc, ces âmes-là, elles s'efforcent de rester fidèles à Dieu, beaucoup plus par crainte de l'enfer que par amour de Dieu et que par amour du ciel. Et donc, elles ont tendance à lorgner avec nostalgie sur les faux plaisirs du monde et regrettent presque que le bon Dieu, eh bien, nous ait donné une religion qui impose autant de restrictions. Vous voyez. Alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut concevoir la religion. Alors si on veut aider les âmes à s'épanouir pleinement, eh bien il me semble que le secret, c'est de leur montrer la douceur d'une vie d'intimité avec Dieu dès ici-bas. Dieu dès ici-bas veut que nous vivions dans son intimité. On est souvent à la superficie de notre âme, on n'est pas suffisamment donc à l'intérieur de notre âme. On n'est pas aussi près du bon Dieu qu'on devrait l'être. Et alors, bien sûr, du coup, la vie nous paraît dure et on a tendance à chercher des consolations après dans le réfrigérateur ou ailleurs. Alors, ce qui nous aide à avancer, à triompher des obstacles, eh bien, il faut toujours se dire, ce n'est pas le négatif, mais le positif. Vous voyez, le positif entraîne. Donc, notre âme est faite pour le bonheur. Notre âme doit trouver son bonheur dès ici-bas en Dieu. Et dès lors qu'on a vraiment conscience que Dieu seul peut étancher cette soif de bonheur, eh bien, on évite beaucoup de pièges, bien sûr. Parce que tant qu'on n'a pas cette conviction profonde, comme on a quand même tous un désir de bonheur, eh bien, on a tendance à chercher ce bonheur ailleurs, bien sûr. Soit en nous, soit dans le matériel, soit dans les relations humaines ou autres, mais... Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Seulement, le problème qui se pose, c'est que c'est vrai aussi que ce bonheur que le bon Dieu nous promet, nous ne le possédons pas encore en plénitude. Et par contre, les plaisirs du monde, eh bien, ils sont là à portée de la main. Alors bien sûr qu'il est très facile de se laisser fasciner par ces plaisirs éphémères et d'en oublier notre véritable destinée. Alors si on veut désirer le ciel, il faudrait essayer d'en connaître un petit peu la nature. Alors quelle est la nature du bonheur du ciel? Comment tout d'abord se faire une idée du bonheur du ciel alors qu'on n'a jamais vu le ciel? Alors c'est vrai que nous ne pouvons, hélas, que balbutier lorsque nous parlons des choses de Dieu, c'est sûr. Chaque fois qu'on touche au bon Dieu, on touche au mystère. Et donc il est très difficile d'exprimer parfaitement, adéquatement, avec les mots justes, d'une façon très claire pour tout le monde, les réalités surnaturelles. Et ceci est tout à fait vrai, spécialement de ce qui regarde eh bien, l'au-delà. Les saints eux-mêmes l'ont reconnu. Saint Alphonse de Ligorie nous dit que nous avons du mal à comprendre en quoi consiste le bonheur du ciel parce que nous avons, dit-il, comme un bandeau devant les yeux. Et ce bandeau, eh bien, nous sera enlevé lorsqu'on mourra et là, alors, on pourra voir au-delà du voile de la foi. Pourtant, si le bon Dieu nous a révélé dès ici-bas ce bonheur du ciel, c'est pour que nous y pensions, c'est pour que nous le désirions. Alors, essayons de nous faire une petite idée du ciel. Et pour cela, ouvrons l'œil de la foi. Donc il ne s'agit pas ici de faire une description donc sentimentale, une description purement extérieure, sensible. Il s'agit de nous dire ce que la foi, de bien connaître ce que la foi nous dit de ce bonheur du ciel. Et la foi me dit, sois sans crainte, tu ne t'égares pas dans une route perdue et incertaine en te soumettant au bon Dieu et en l'aimant de tout ton cœur. Ma foi me dit, au-delà des quelques années périssables que tu passes ici-bas, il est une nouvelle vie, dont celle-ci n'est que la représentation et l'image. Ici-bas, me dit la foi, tu n'es qu'un voyageur. Mais là-haut, au-delà des étoiles, au-delà de tous les espaces, se trouvent l'héritage et la patrie. Et dans cette patrie, tu trouveras le bonheur. Tous les saints, spécialement dans les premiers siècles, c'est très beau de voir cela, de lire les martyrs, l'histoire des martyrs, des premiers martyrs, saint Polycarpe, saint Ignace d'Antioche, saint Antoine. Eh bien, dans le récit des martyrs, on sent qu'ils avaient cette soif du ciel, et pour eux, le ciel était, ils le considéraient comme étant tout proche. Si bien qu'ils pouvaient dire, ô terre, que tu me sembles vile lorsque je contemple le ciel. Voilà ce que les saints se disent. Ô terre, que tu me sembles vile lorsque je contemple le ciel. Alors, essayons de dire quelques mots du ciel. Tout d'abord, pour approcher un tout petit peu la nature du bonheur du ciel, imaginez un artiste. Cet artiste est vraiment un génie. Il n'a pas son équivalent dans le monde entier. Il est arrivé à développer son art d'une façon prodigieuse. Et dans la mesure où il a du temps devant lui, il a une fortune colossale, et il a tous les matériaux voulus, eh bien, il décide de réaliser le rêve de sa vie, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Donc imaginez cet artiste, il se met à l'ouvrage, il déploie tous ses talents, toute son énergie, toutes ses capacités, toute sa fortune pour réaliser son rêve. Une fois terminé, le tableau qu'il a fait est superbe. Tout le monde l'applaudit, tout le monde l'admire, tout le monde le comble d'honneur et de gloire, mais lui, à l'étonnement de tous, il reste insatisfait. Il succombe à une pensée de découragement et de tristesse, il regrette de n'être qu'un homme. Dans le vol hardi de son inspiration, il avait saisi une image, il avait entrevu, on peut dire, une perfection, il avait conçu un idéal, mais il voit bien que finalement son œuvre reste imparfaite. Son œuvre reste bien en dessous de son rêve. Il voit le décalage entre le rêve et la réalité. Et voilà pourquoi, se trouvant aux prises avec ses propres limites, il est abattu, il est découragé. Maintenant, autre cas de figure. Imaginez que la main et la puissance de cet artiste auraient été à la hauteur du souffle et des élans de son âme. si maître de la nature, il était parvenu à la plier à ses rêves, alors nous aurions une œuvre encore bien plus belle, bien plus sublime, bien plus majestueuse, non seulement que celle qu'il a faite, mais que toutes celles qui ont existé et qui existeront. Alors, dans ce cas, bien sûr, l'artiste serait ravi de son chef-d'œuvre. Il goûterait pleinement son repos. Il aurait atteint son idéal. Alors, peut-être que vous vous dites, à travers cet exemple, je saisis un petit peu ce que doit être le ciel. Le ciel, c'est l'idéal de bonheur qu'un homme peut concevoir. Je sais qu'au ciel, on est heureux. Donc, le ciel, c'est le bonheur le plus délicieux, le plus beau, le plus ineffable que je peux concevoir ici-bas. Eh bien, là, je vais être désolé de vous dire que ce bonheur si magnifique, si sublime que vous concevez, n'est pas du tout le bonheur du ciel. Oh, quel dommage, alors. Ah, c'est quoi le bonheur du ciel? Alors, allez-y, alors. C'est pas la peine de parler comme ça pendant 5 minutes, c'est pour vous dire que c'est pas ça. Eh bien, non. Le ciel, ce n'est pas cela. Le ciel, ce n'est pas un idéal humain. Le ciel, c'est encore bien plus beau que cela. Le ciel, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Là, je vous ai montré ce que serait que le chef-d'œuvre d'un homme si l'homme était capable de faire ce qu'il entrevoit dans son rêve. Mais l'homme ne peut jamais être un véritable génie, n'est jamais à la hauteur de toutes ses capacités. Tout vrai génie est toujours déçu par son œuvre. Celui qui est rempli de son œuvre, c'est pas un génie, vous voyez. Celui qui a conscience qu'il n'a pas fait aussi bien qu'il aurait désiré, eh bien, en ce moment-là, il est plutôt dans la ligne, justement, du génie. Mais si on imagine l'homme qui serait capable de réaliser son œuvre géniale, eh bien, malgré tout, cette œuvre restera une œuvre humaine. Or, le ciel est encore bien plus beau. Le ciel n'est pas une œuvre humaine. Le ciel est une œuvre divine. Comprenez-le bien. Autant Dieu est au-dessus de l'homme, autant son idéal est au-dessus de celui que parviendrait à concevoir l'esprit le plus sublime et le plus pénétrant. Dieu a un idéal divin. Dieu a un idéal qui est proportionné à sa nature. Or, étant tout puissant, il n'est pas limité. Il est tout à fait capable d'atteindre son idéal. Il n'y a rien pour le limiter. L'homme est limité dans son budget, il est limité dans son temps, il est limité dans ses dons. Mais Dieu n'est pas limité, Dieu est infini. Et donc, non seulement il peut atteindre son idéal, mais il est capable de faire participer des créatures à son propre idéal. Or, précisément, c'est là le plan de Dieu. Dieu a eu comme projet, c'est magnifique quand on y pense, Dieu a eu comme projet de faire participer des hommes et des anges à son propre bonheur. Et le ciel, c'est cela. Le ciel, c'est une participation au bonheur même de Dieu. Et le bon Dieu, ayant une telle soif de s'unir à nous, il n'a pas attendu le ciel pour venir en nous. Dès le baptême, notre âme est embellie, notre âme est transfigurée, est ennoblie en profondeur, au point que dès maintenant, ce qui fera notre bonheur au ciel est présent au plus profond de notre âme. Et c'est toujours important, quand on assiste à un baptême, on est toujours ému. Vous voyez, au moment où le prêtre va verser l'eau sous le front, bon, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer là. Vous voyez. Mais on n'a peut-être pas encore suffisamment un regard de foi aussi profond pour réaliser que c'est toute la Sainte Trinité qui vient habiter l'âme de cet enfant. Et que le ciel est déjà présent dans cet enfant. Notre Seigneur dit par exemple, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Notre Seigneur ne dit pas aura la vie éternelle. Il dit « Ah, la vie éternelle !» La vie éternelle est déjà commencée. La vie éternelle est commencée depuis mon baptême. Et dans le plan de Dieu, on parle de vie éternelle, parce que dans le plan de Dieu, la grâce doit s'épanouir en gloire. Par accident, hélas, des gens peuvent commettre un péché mortel et chasser Dieu de leur cœur. Malheureusement, c'est épouvantable. Mais dans le plan de Dieu, la vie qui nous est donnée est une vie qui est éternelle. Vous voyez ? Un peu comme nos premiers parents, ils ont hélas péché, donc ils ont perdu la vie de la grâce. Mais dans le plan de Dieu, Adam et Ève ont été créés immortels. Ils ne devaient pas mourir. Ils ne sont morts que parce qu'ils ont péché. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. Mais dans le plan de Dieu, ils ne devaient pas mourir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens tombent hélas dans le péché mortel que le péché mortel fait partie de la nature humaine, en quelque sorte, enfin de la vie humaine. Dans le plan de Dieu, non, pas du tout. Dieu est infiniment généreux, il nous donne sa vie éternelle dès le moment où les âmes sont baptisées. D'où l'importance de baptiser, bien sûr, les enfants le plus tôt possible, pour leur communiquer cette vie éternelle. Mais dans le plan de Dieu, eh bien, cette vie de la grâce doit s'épanouir en gloire. Et normalement, l'accident du péché mortel ne devrait jamais se produire dans le plan de Dieu. Hélas, l'homme étant faible, il peut tomber. Mais dans le plan de Dieu, cette vie... Et ça, ça nous montre bien la générosité encore aussi de Dieu, vous voyez. Et cet amour aussi qu'il nous porte. Seulement, c'est un trésor caché, vous voyez. C'est un trésor qu'on ne voit pas. Et le gros problème de l'homme moderne, c'est qu'il est ficelé souvent par sa psychologie, et donc, suivant qu'il se sent bien, qu'il se sent pas bien, suivant qu'il a l'impression que le bon Dieu est proche de lui, ou qu'il a l'impression que le bon Dieu est loin de lui, il a tendance à imaginer qu'il y a un éloignement ou un rapprochement du bon Dieu. Mais non, si je suis en état de grâce, le bon Dieu est toujours présent. J'ai ce trésor magnifique. Et c'est précisément ce qui va nous toucher lorsqu'on mourra, vous voyez. Quand on mourra, on se dira, oh, tiens, que le bon Dieu était si proche de moi. Et moi qui étais là en faisant comme s'il était loin, je ne réalisais pas qu'il était si proche. Oui. Certainement que ça nous touchera, certainement. Alors une retraite est là pour nous aider à le considérer. Donc il ne s'agit pas de le voir, il ne s'agit pas de le sentir, il s'agit de le croire. C'est une vérité de foi. Donc la foi consiste à croire dans ces vérités que le bon Dieu nous a révélées. Dieu ne peut pas se tromper, Dieu ne peut pas me tromper, Dieu m'a dit qu'il vient en moi par le baptême, donc il vient en moi par le baptême. Alors, c'est pas parce que je le sens ou que je le sens pas, c'est pas parce que je suis fatigué ou que je suis pas fatigué que ça change quelque chose, vous voyez. Donc, que j'ai des épreuves ou que j'ai pas d'épreuves, ça ne change rien. Alors, ce trésor caché, étant caché, eh bien, on peut avoir tendance, eh bien, à l'oublier. Et donc, à rechercher ailleurs ce que le bon Dieu peut nous donner. Donc, vous avez saisi qu'il n'est pas possible de nous faire une idée exacte du ciel. Parce que le ciel est un idéal divin et non pas un idéal humain. Si c'était un idéal humain, on pourrait vous le présenter. Mais c'est un idéal divin. Un idéal divin, il n'y a que Dieu qui peut nous le montrer. Donc vous imaginez un aveugle de naissance, eh bien, essayez de lui faire montrer à cet aveugle de naissance la beauté du monde visible. Je vous souhaite bon courage, c'est pas forcément facile, vous voyez. Vous aurez beau trouver les mots les plus évocateurs, les plus parlants, les plus saisissants, vous aurez beaucoup de mal à expliquer à un aveugle ce qu'est le monde visible. Mais le décalage est encore bien plus grand entre les beautés de la terre et celles du ciel qu'entre les ténèbres d'un aveugle et les beautés de l'univers. Saint Jean, l'évangéliste, a eu un privilège exceptionnel dans l'île de Patmos. Le bon Dieu lui a fait entrevoir comme une ombre, on pourrait dire, un reflet de la vie éternelle. Alors, pour nous faire comprendre ce qu'il a entrevu, il a voulu recourir à des images tirées de la nature. Donc, ces images ne sont pas interprétées de façon matérielle, mais elles renferment des analogies frappantes. On peut découvrir, à travers les images données par Saint Jean, une pâle représentation de cette gloire et de ces splendeurs du ciel. Et après cette lecture que vous pourrez faire vous-même, vous pourrez conclure que le ciel, ce sont toutes nos richesses, tous nos agréments, tous nos accords, mais infiniment plus que toutes nos richesses, tous nos agréments, tous nos accords. Quand vous représenterez les élus dans le ciel subtil, immortel, impassible, vêtu d'une lumière douce, ou plutôt d'une gloire divine, vous ne vous trompez pas, le ciel, c'est encore cela, mais infiniment plus que cela. Enfin, lorsque vous comparez le bonheur du ciel au saisissement de l'âme les plus enivrants et les plus doux, à une joie qui est toujours nouvelle, une joie qui est affranchie de tout trouble et de toute passion, et qui se soutient durant toute l'éternité, dans son intensité et dans sa force, là encore, vous ne vous nourrissez pas d'une espérance trompeuse. Le ciel, c'est encore cela. Mais encore bien plus que cela. Dites-vous bien que le ciel, c'est un royaume qui est si beau, une béatitude qui est si transcendante que Dieu en a fait l'objet exclusif de ses pensées. Toute la création, toute la rédemption sont ordonnées à cela. Saint Paul dit « Omnia propter electos ». Tout a été fait pour les élus. Donc tout a été fait pour les saints. Et les saints ont été faits pour le ciel. Donc tout ce qui existe dans le monde n'a été fait que pour que les saints puissent bénéficier de ce bonheur du ciel. Alors qu'est-ce donc que le ciel ? Je vous ai dit que le ciel, c'est l'idéal de Dieu. Pour préciser la pensée, je dirais, le ciel, c'est le repos de l'intelligence de Dieu, ou plutôt encore, le repos de son cœur. Et c'est ce repos que le bon Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Comme jamais mère n'a aimé son fils le plus tendre, ainsi le bon Dieu aime ses prédestinés. Vous avez dans l'Évangile un passage où notre Seigneur dit, en accueillant un élu au ciel, « Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Vous voyez, entre dans la joie de ton maître. Entrez dans la joie de Dieu. Entrer dans la joie de Dieu, c'est participer à la joie de Dieu. C'est cela le ciel. Participer à la joie même de Dieu. Vous avez une belle expression de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui dit « Le ciel, c'est être fondu avec celui que l'on aime. » Le ciel, c'est être fondu avec celui que l'on aime. Et celui qu'on aime, c'est Dieu, Dieu lui-même. Être semblable à lui parce qu'on le voit tel qu'il est. Être semblable à lui parce qu'on le voit tel qu'il est. Nous ne serons pas Dieu, mais nous serons quand même transformés en Dieu, tout en restant homme, mais nous sommes bien transformés en Dieu. Et la grâce est cette participation à la vie de Dieu. Ainsi, le ciel, c'est en quelque sorte un mariage où notre âme enlacera le bon Dieu d'un embrassement éternel, sans que jamais elle sente s'affaiblir le saisissement de ce jour où la première fois elle s'est unie à lui et le pressa contre son sein. Donc il y a deux conceptions, je dirais, erronées du ciel. Soit on imagine le ciel comme étant insaisissable, inaccessible et éthéré, et du coup, on se dit, en fait, on ne sait rien de ce qui se passe de l'autre côté, vous voyez, c'est un écueil. Ou soit l'écueil inverse aussi, qui consiste à vouloir faire du ciel un bonheur trop matériel, vous voyez, un bonheur sensuel comme celui des musulmans, et qui est totalement faux aussi, totalement faux, c'est évident. Mais ce n'est pas parce que le ciel est entre les deux, en quelque sorte, mais bien plus beau qu'on peut l'imaginer. Mais on peut déjà quand même entrevoir un petit quelque chose du ciel. Et le peu qu'on puisse entrevoir doit être suffisant pour alimenter notre désir du ciel et pour aussi mieux accepter les épreuves de la vie, voyez. Parfois, on se dit, comment ça se fait que le bon Dieu permet que j'ai tant d'épreuves ici-bas? Pourtant, je ne pense pas être si méchant que ça. Pourquoi est-ce qu'il permet que j'ai tant d'épreuves? Eh bien, c'est justement chaque épreuve... Eh bien, nous permet d'avancer dans la vie, et donc d'avancer dans la vie spirituelle, et donc d'avoir au ciel une place qui sera plus belle, une place qui sera plus pour toute l'éternité. Donc chaque place, je dirais, qu'on gagne par rapport au ciel, voyez, si vous êtes celui qui est à la 5e milliard de places, donc il a gagné, hop, 5 places. un peu plus proche du bon Dieu. Mais c'est pour toute l'éternité quand même, hein, donc c'est quand même pas rien. Gagner 5 places pour toute l'éternité, c'est pas rien. Alors si on peut gagner 5000 places, c'est encore mieux. Alors, une autre approche du ciel maintenant, c'est à partir de la contemplation de la nature. Vous savez que la nature, en fait, participe en quelque sorte à l'état de l'homme. C'est-à-dire que depuis le péché originel, la nature est marquée, est souillée un petit peu, en conséquence du péché originel. Si bien qu'il est écrit dans le livre de la Genèse, le sol a été maudit et il y pousse épines et chardons. Donc il y a des vestiges, des traces du péché originel dans la nature. Ces moustiques qui nous piquent, tout ce qu'il peut y avoir de désagréable, ces serpents, etc. Donc il y a des vestiges du péché originel. Mais il y a aussi en même temps des indices encore, des traces de Dieu, et donc qui nous font, qui doivent nous faire nous donner une petite idée en fait de Dieu. J'étais au bord de la mer en Bretagne la semaine dernière, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de retrouver son pays, bien sûr. Mais devant cette belle étendue, c'est sûr que c'est bon, les montagnes, pour ceux qui aiment les montagnes. Bon, il y a ici-bas de très beaux paysages qui sont là pour nous faire donner une petite idée de Dieu et du ciel. C'est sûr. Avant d'entrer au séminaire, c'est amusant parce que j'avais deux professeurs avec lesquels j'aimais beaucoup discuter. On parlait religion. Un s'appelait Monsieur Dieu et l'autre s'appelait Monsieur Bishop. Donc tous les trois, on parlait religion. Voilà. Et Monsieur Dieu, il avait une maison au bord de la mer en Normandie et il aimait bien, marcher au bord de l'eau. Et là, il réfléchissait un petit peu donc à ce qui se passe après la vie, à celui qui est à l'origine de ce monde. Et il disait que ça lui donnait presque des sensations de vertige. Il disait, mais ce monde n'a pas pu être fait tout seul, c'est pas possible. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas très pratiquant, malheureusement, bien que s'appelant Monsieur Dieu. Mais il avait quand même des réflexions intéressantes. Donc, à savoir que uniquement par la contemplation de la nature, il arrivait à la conclusion que ce monde n'a pas pu se faire tout seul. Ce qui est évident aussi, hein, mais aujourd'hui, tout le monde, hélas, ne le reconnaît pas. Donc, il y a dans la nature des marques, vous voyez, de Dieu, et qui doivent nous aider à nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous dire, si pour quelques jours que nous sommes sur la terre, qu'est-ce que c'est que les quelques années qu'on passe ici-bas par rapport à l'éternité? Le bon Dieu donne aussi bien aux méchants qu'aux bons cette terre. Qu'est-ce que le bon Dieu a réservé à ceux qu'il aime, vous voyez? Ça doit aussi nous aider à penser à ce bonheur du ciel. Lorsque vous voyez un beau paysage, pensez à cela. Ensuite, une autre source de renseignement pour nous, pour essayer de se faire un petit peu une idée du ciel, ce sont les saints. Les saints vivant plus près de Dieu que nous, eh bien, ont certainement une idée plus juste du bonheur qui nous attend de l'autre côté. Alors, interrogeons-les. Saint Paul a eu ce privilège extraordinaire d'être, dit-il, lui-même le raconte, d'être ravi au troisième ciel. C'est raconté donc dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Il a attendu 14 ans pour en parler, donc il n'était pas pressé de raconter ce qu'il a vu, montrant par là sa discrétion et son humilité aussi en même temps. Mais 14 ans après, il va parler de cette vision qu'il a eue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire de ce qu'il a pu voir, donc, au cours de cette vision? Et il nous dit ceci. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, voilà ce que le bon Dieu a préparé à ce qu'il aime. Merci beaucoup, Saint Paul. On est beaucoup plus avancés. Mais c'est très intéressant pour nous, vous voyez, parce que justement, lui qui a eu cette grâce de voir quelque chose du ciel, eh bien, quand il cherche à l'expliquer, il ne trouve pas, vous voyez, d'éléments dans la nature ou d'éléments sensibles. Vous voyez. Et donc ça, c'est intéressant pour nous, parce que ça nous montre que le ciel est encore bien plus beau que tout ce qu'on peut imaginer. Vous voyez. Il dit lui-même qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de voir les saints qui ont pu voir la Sainte Vierge, par exemple, comme Sainte Bernadette ou les enfants de Fatima. Eh bien, Sainte Bernadette, qui a vu la Sainte Vierge, elle n'avait qu'une envie, c'est de la revoir, vous voyez. Et les enfants de Fatima, c'est pareil. Même sur les trois enfants de Fatima, celle qui a eu l'impression de s'être fait avoir, c'est Sœur Lucie. Les autres ont appris qu'ils allaient mourir très vite. Ah, très bien, on va pouvoir retrouver la Sainte Vierge au ciel, vous voyez. Alors que voir la Sainte Vierge avec un corps humain, ce n'est pas voir Dieu, hein. Dieu est encore bien plus beau que la vision qu'on peut avoir de la Sainte Vierge ici-bas. Mais la simple vue de la Sainte Vierge, déjà, suffisait à détacher complètement ses enfants de la terre et de les tourner vers les réalités spirituelles. Vous avez encore dans les psaumes aussi des passages qui expriment cette soif de Dieu. Vous avez notamment le psaume 136, où l'auteur décrit l'état des Hébreux lorsqu'ils étaient captifs à Babylone. Donc ils ont été envoyés captifs pendant 70 ans dans cette ville de Babylone. Et Babylone signifie confusion, tandis que Jérusalem signifie vision de paix. Donc Babylone est symbolise en fait le monde, et Jérusalem symbolise le ciel. Et donc des Hébreux étaient là, assis sur les bords des fleuves du Babylone, et ils pleuraient au souvenir de Jérusalem, donc cette vision de paix qu'ils avaient perdue. Et donc les habitants de Babylone sont approchés d'eux et leur ont demandé de chanter quelques cantiques de Jérusalem. Mais le chant étant un signe de joie, eh bien les Hébreux s'y sont refusés. Et l'un d'entre eux a donné comme motif « Que ma langue s'attache à mon palais si j'oublie ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au principe de ma joie. » Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas chanter sur la terre, hein, du tout. Mais ça veut dire que, comme les Hébreux, nous devons mettre Jérusalem au principe de notre joie. Mettre Jérusalem au principe de notre joie, ça veut dire mettre le ciel au principe de notre joie. Que notre source de joie, que notre source de consolation dans cette vallée de larmes, eh bien, ce soit la pensée du ciel. Dans le psaume 86 aussi, il y a un mot intéressant qui est commenté par saint Augustin, où il est fait mention encore du bonheur du ciel. Et il est dit que les élus, donc, sont comme dans la joie. Ils sont comme dans la joie ceux qui habitent en toi, Seigneur, donc est-il dit dans ce psaume 86. Et donc saint Augustin, qui commente ce verset, il dit, pourquoi le psalmiste ne dit pas que les élus sont dans la joie? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que les saints sont dans la joie? Pourquoi il dit qu'ils sont comme dans la joie? Eh bien, si l'auteur dit qu'ils sont comme dans la joie, c'est afin que nous évitions de faire une transposition avec les joies terrestres. Ils sont comme dans la joie parce que la joie du ciel n'a rien à voir en quelque sorte avec la joie terrestre, et qu'elle est infiniment supérieure à toute forme de joie qu'on peut éprouver ici-bas. Donc au ciel, nous aurons un bonheur qui comblera toutes les aspirations les plus profondes de notre être. Et c'est encore pour nous un moyen de nous faire une petite idée du bonheur du ciel, vous voyez. De regarder quels sont les manques que nous avons ici-bas, vous voyez. Quels sont nos manques, donc quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, ce qu'on désire assouvir en nous, donc quels sont nos manques. Et on sait que tous nos manques, bien sûr, seront pleinement satisfaits au ciel. Et c'est très intéressant de voir que ces manques seront satisfaits par les trois personnes divines. Vous voyez, le Père aura son rôle à jouer, le Fils aussi, le Saint-Esprit aussi. Les trois auront un rôle à jouer. Donc tout d'abord, nous pouvons ressentir certains moments ici-bas la solitude. Vous voyez. Nous avons parfois, à certains moments, une sensation de solitude, une sensation qu'on est seul. Vous voyez. Alors, bien sûr que ceux qui sont mariés, donc le conjoint apporte quelque chose et donc permet en partie de combler cette solitude, mais pas pleinement non plus, parce que même avec un conjoint, même un conjoint qui a toutes les qualités, comme c'est le cas de vos conjoints, eh bien malgré tout, il y a encore des manques. Il y a encore des manques parce que on n'est pas fait pour la terre, on est fait pour le ciel. Dieu seul peut combler totalement notre tous nos besoins. Et donc le rôle, ce sera spécialement le rôle de Dieu le Père de combler notre solitude, voyez. Parce que le Père, c'est celui qui soutient, le Père, c'est celui qui apaise, le Père, c'est celui qui réconforte, et ce sera le rôle de Dieu le Père au ciel. Donc on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être apaisé, et bien ça, ce sera le rôle de Dieu le Père. Et Dieu le Père le remplira ce rôle, bien sûr, parfaitement. Si bien qu'on aura plus jamais cette sensation de solitude ou de vide, ou de cette impression de manquer de cette protection. Ensuite, après, ici-bas, nous avons aussi une soif d'apprendre. J'espère, parce que sinon vous ne seriez pas là. Sinon je parlerai dans le vide. Donc on a une soif d'apprendre, mais cette soif aussi ne peut jamais être pleinement étanchée. On a toujours de nouvelles choses à connaître. Et plus on cherche à connaître, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose. Et donc plus alors, ça doit attiser en nous un désir de connaître. Eh bien, cette soif sera apaisée essentiellement par le Verbe, voyez, par la deuxième personne de la Sainte Trinité. La deuxième personne de la Sainte Trinité, donc le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc cette parole de Dieu nous fera connaître tout ce que nous pouvons désirer connaître. Au ciel, nous serons un avec le Verbe, c'est-à-dire que nous pourrons par conséquent connaître le Père comme le Verbe connaît le Père. Et comme dit aussi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au ciel, je saurai comment il a fait les roses, comment il a fait les vents, comment il a fait les oiseaux. Enfin, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus en premier, hein, mais enfin, on saura tout cela également. Et puis surtout, sur la terre, on sent en nous un besoin d'aimer et un besoin d'être aimé. La preuve, c'est lorsqu'une personne ne nous estime pas, on en souffre. Et au contraire, on éprouve du plaisir, bien sûr, à se sentir aimé. Mais là aussi, c'est très important, toujours de se le rappeler, spécialement pour les plus jeunes ici, se rappeler qu'une créature ne pourra jamais nous combler totalement dans ce domaine-là. Quand on a pensé qu'on a trouvé l'âme sœur, on pense que ça y est, on a trouvé la personne qui, enfin, qu'on pourra aimer et qui nous aimera, donc qui comblera totalement, parfaitement, notre soif d'aimer et notre soif d'être aimé. Mais c'est faux. C'est faux parce que nous sommes faits pour Dieu, nous ne sommes pas faits pour une créature. C'est vrai aussi que si vraiment on a trouvé l'âme sœur, entre guillemets, que cette âme pourra compléter en partie ce désir que l'on a. C'est vrai, en partie, mais pas totalement. Et s'il y a d'ailleurs des personnes qui divorcent, c'est aussi peut-être pour cela. Parce que justement, elles attendent trop de la créature. Beaucoup trop d'âmes attendent trop de la créature. Et elles demandent à la créature ce que Dieu seul peut donner. Dieu seul peut combler totalement les aspirations de notre âme. Donc plus tôt on en a conscience, eh bien plus on peut éviter des bêtises, voyez. Et ce sera au ciel spécialement le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'amour incréé, va combler totalement notre soif d'amour. Quelle joie alors pour les âmes bienheureuses de se voir aimées de Dieu, voyez. Être aimé par celui qui a créé le monde. Être aimé par celui qui est amour, qui est l'amour. Et ce qu'il y a de merveilleux au ciel, c'est que les saints non seulement sont aimés de Dieu, mais parce que le bon Dieu est en eux, elles peuvent rendre amour pour amour. L'âme au ciel est aimée par Dieu, mais l'âme au ciel, elle a Dieu en elle. Et donc, grâce au Dieu qui est en elle, elles peuvent rendre amour pour amour. Alors c'est vrai que quand on réfléchit à tout cela, on comprend mieux cette parole de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui dit « Le ciel s'est contemplé dans sa lumière les splendeurs de l'être divin, scruter toutes les profondeurs de son mystère, être fondu avec celui que l'on aime, comme je le disais tout à l'heure, chanter sans repos sa gloire et son amour, être semblable à lui parce qu'on le voit tel qu'il est. » Être semblable à lui parce qu'on le voit tel qu'il est. Saint Paul, qui avait eu cette grâce dont j'ai parlé tout à l'heure, d'être élevé au troisième ciel, d'être ravi au troisième ciel, disait à ses fidèles, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, c'est-à-dire faisons tout ce qui dépend de nous pour mériter ce bonheur du ciel. » Alors cette vision de Dieu, eh bien, ce sera d'abord un acte de l'intelligence par lequel donc nous connaîtrons Dieu, clairement et immédiatement, sans intermédiaire. Et puis ensuite, la grâce, comme je l'ai dit, la grâce sanctifiante va s'épanouir en ciel, en gloire. Et donc c'est dans cette lumière de gloire, en fait, que l'on pourra, c'est grâce à cette lumière de gloire, que l'on pourra voir Dieu par notre intelligence. Cette lumière de gloire va élever notre intelligence jusqu'à la vie de Dieu et donc va la rendre apte à cette vision intuitive de Dieu. Donc la lumière de gloire, c'est une qualité créée que le bon Dieu infuse dans les âmes des bienheureux pour parfaire leur intelligence et rendre cette intelligence capable de le voir. Alors, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai laissé entendre qu'il y a différents degrés de vision béatifique. Et c'est la raison pour laquelle ça doit nous stimuler aussi beaucoup dans notre désir d'avancement dans la vertu. Il y a différents degrés de vision béatifique. Donc, toutes les âmes qui sont au ciel sont pleinement heureuses, mais elles ne voient pas Dieu exactement de la même manière. Et elles ne jouissent pas de Dieu exactement de la même manière. Notre Seigneur nous a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Saint Jean chapitre 14, verset 2. Et saint Paul dit de son côté, une étoile différera d'une autre étoile en gloire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 41. Donc comme les étoiles sont différentes, il n'y a pas deux étoiles qui sont identiques, et bien de la même manière, les saints au ciel aussi sont divers. Et ce bonheur, alors, sera un bonheur éternel. Et c'est le dernier point sur lequel je m'arrête, la question de l'éternité. C'est difficile de méditer sur l'éternité, hein. Mais il est très important pour nous d'avoir une notion juste de l'éternité. Comme nous sommes dans le temps, nous avons tendance à penser que l'éternité, c'est un temps qui ne finit pas. Vous voyez ? Spontanément, on se dit l'éternité, c'est un temps qui ne finit pas. Mais c'est pas ça. Heureusement pour nous d'ailleurs, hein. Parce que sinon on pourrait s'ennuyer, vous voyez, parce que déjà une heure de conférence c'est pas long. Toute l'éternité, vous voyez. Bon. Donc, Monseigneur Lefebvre, dans une conférence qu'il avait faite au séminariste, je crois que c'est au séminariste qui parlait, ou peut-être à des moines, je sais plus, enfin une conférence en tout cas qu'il a faite. Oui, c'était à des moines. Je crois que c'était d'ailleurs le Capucin de Morgon, une retraite qu'il a prêchée à Morgon en 85. Il dit que quand il avait 10-12 ans, un prêtre avait prêché une retraite, je crois, et donc avait essayé d'expliquer aux enfants, donc il avait 10-12 ans à ce moment-là, ce que c'est que l'éternité. Donc il avait pris l'image d'un oiseau qui survolait une boule en acier, et donc en étant si proche de cette boule, eh bien il frôlait la boule, et puis donc à la force, ben la boule diminuait, et puis après, bon, il n'y aurait plus de boule, quoi. Il faut imaginer le temps qu'il faudrait pour qu'il n'y ait plus de boule, quoi, quelque chose comme ça. Et là, en ce moment-là, après, le moine disait, donc, enfin, ou le père, en tout cas, qui prêchait donc cette retraite dont parlait Monsieur Lefebvre, il disait, eh bien, en ce moment-là, on serait encore qu'au début de l'éternité. Alors, Monsieur Lefebvre, parlant donc au moine, il dit, en tout cas, visiblement, ce père-là, il n'avait rien compris à ce que c'est que l'éternité. L'éternité, c'est pas du tout ça, et heureusement pour nous. Donc, l'éternité, ce n'est pas un temps qui ne finit pas. Comme nous sommes dans le temps, nous avons tendance à définir le temps par rapport à l'éternité. Mais le temps, vous voyez, d'une certaine manière, le temps est une notion qui est très mystérieuse. Et d'une certaine manière, plus mystérieuse que l'éternité. Le temps, c'est quelque chose de mystérieux, en effet, parce que le temps nous échappe tout le temps, vous voyez. Le passé n'est plus, le futur n'existe pas encore, et l'instant présent, il y a parfois des bons moments, mais paf, bon, et tout de suite, il passe très vite, et puis après, on passe à autre chose, vous voyez. Donc, le temps, c'est une notion qui est très fugitive. On n'arrive pas à arrêter le temps, vous voyez. Et donc, l'éternité, ce n'est pas un temps qui ne finit pas, parce que la roue a fini de tourner à la fin des temps. Donc, avant le commencement du monde, il n'y avait pas de temps, hein. Dieu existe de toute éternité. Et donc, le temps, c'est la mesure du mouvement. Donc, parce que il y a donc les astres se meuvent, donc à partir de là, on peut très bien, à partir du mouvement des astres, on peut très bien donc établir avoir une certaine notion de temps. Mais quand on est en Dieu, du côté de Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, l'éternité, c'est un point fixe en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, et qui a un temps, c'est une notion qui est pleine, il y a une plénitude, si vous voulez, dans l'éternité, qui n'existe pas dans le temps. Le temps, c'est quelque chose de très fugitif, quelque chose qui fuit en permanence. Mais heureusement que dans l'éternité, ben, on arrêtera de courir dans l'éternité, vous voyez. Parce que l'éternité, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui ne bouge plus. Mais c'est pas parce que qui ne bouge plus que c'est figé aussi. Il faut pas imaginer que c'est maintenant on bouge plus. T'sais. On reste dans cette position comme ça pendant tous les derniers. Non, c'est pas ça non plus. Bon, donc l'éternité, en tout cas, retenez que ce n'est pas un temps qui ne finit pas, c'est autre chose. Retenez que l'éternité, c'est un état. Donc l'homme qui est entré dans l'éternité et qui jouit du bonheur du ciel participe à l'éternité de Dieu. Et Dieu, encore une fois, ne s'ennuyait pas avant d'avoir créé le monde. Hein. Ce n'est pas dire, oh, ça fait déjà une éternité que je suis ici. Allez, bon, je vais quand même créer des hommes et des anges parce que là, j'arriverai pas à tenir encore une éternité comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. Dans l'éternité, le bon Dieu ne s'ennuyait absolument pas du tout. Il n'avait besoin de créer personne. Il a créé les hommes simplement pour que les hommes et les anges puissent participer à son bonheur. Mais son bonheur est justement un bonheur éternel, qui est plein. Et donc nous, on participera à ce bonheur éternel. Les saints, vous voyez, nous font comprendre un petit peu ce qu'est l'éternité. Lorsque les saints entrent en extase, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient, donc la simple vision qu'ils ont de la Sainte Vierge, par exemple, ou d'autres saints. Et à ce moment-là, ils perdent totalement la notion du temps. Quand on leur demande combien de temps ça a duré, ils sont pas capables de dire si ça a duré 1 minute, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure. Ils perdent complètement la notion du temps. Pourquoi? Parce que quand on leur montre quelque chose de l'éternité, eh bien, ils sont comme dans l'éternité. Donc, ils sont plus dans le temps. Donc, c'est autre chose. L'éternité, ce n'est pas un temps qui ne finit pas. Et c'est ce qui explique qu'on ne s'ennuie pas au ciel. Donc, ça, je vous rassure là-dessus. Il n'y a pas d'ennui au ciel. Parce qu'on participe au ciel, au repos de Dieu. Et si nous voulons alors connaître ce bonheur, eh bien, il est très important de le désirer. Pour échapper au temps, l'homme a tendance à rêver, et la femme aussi, paraît-il. Peut-être même un peu plus. Mais s'il est stérile de passer son temps à rêver, eh bien, il est très utile, par contre, de porter régulièrement son regard vers le ciel. Parce que quand on rêve, ça veut dire qu'on est attiré vers autre chose, vous voyez. Et autre chose qui pourrait nous faire du bien, qui pourrait nous remplir. Mais il n'y a rien qui puisse, nous satisfaire plus que le ciel. Donc, il faudrait que nous ayons, comme la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, la nostalgie du ciel. Elle disait à la mère prieure du Carmel où elle est rentrée qu'elle voulait mourir avant de rentrer au Carmel. Et en ce moment-là, la mère prieure a dit qu'elle était paresseuse. Elle a dit non, non, c'est pas par paresse, hein, mais c'est parce que le ciel, il est si beau que bon, je voudrais pouvoir aller plus vite au ciel, quoi. Mais il n'y a pas de plus beau rêve que le ciel. Donc, en conséquence, alors maintenant, on va terminer par des réflexions. Après cette description du ciel est très imparfaite, hélas, parce que le ciel est difficile à saisir. Et quelques mots sur l'éternité. On peut dire que le peu que l'on entrevoit du ciel est plus que suffisant pour stimuler notre énergie, pour décupler notre ferveur et pour alimenter, je l'espère en tout cas, notre courage et soutenir nos forces. Vous aviez une vie dans le monde qui n'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être catholique aujourd'hui. Pour rester catholique, pour éduquer vos enfants, pour il faut faire de grands sacrifices. Vous devez souvent subir les incompréhensions de votre entourage, les blâmes des personnes qui ne comprennent pas du tout votre attitude, et bien que la pensée du ciel soit votre réconfort. Quand on contemple le bon Dieu, le bonheur promis à ceux qui aiment Dieu, eh bien on comprend mieux, vous voyez, la nécessité de passer par la croix. Toute croix qui est offerte embellit notre couronne pour le ciel. Que ce soit les nuits de la foi, que ce soit les souffrances physiques, morales, spirituelles, les deuils, eh bien toutes ces épreuves, il faut les vivre avec cette pensée du ciel. Que si on les vit qu'avec la pensée de la terre, alors là, bien sûr, on peut penser, estimer qu'on est les plus malheureux des hommes, ce qui n'est peut-être pas le cas quand même, hein, mais on peut le croire. Mais dès qu'on pense au ciel, alors ça change tout. Vous voyez. Quand on sera de l'autre côté, c'est sûr qu'on se dira « Oh, mais si j'avais su que le ciel était si beau, alors finalement les épreuves que j'ai eues ici-bas, elles n'étaient pas si vous voyez, elles n'étaient pas si douloureuses. » Et spécialement, alors les plus jeunes parmi vous, vous pouvez être tentés, bien sûr, peut-être davantage, par les promesses trompeuses du monde, alors que la vue du ciel aussi stimule votre ferveur. Vous voyez, à la lumière de la pensée catholique, que la vie sur terre a un intérêt qui est quand même bien plus grand, bien plus noble, bien plus enthousiasmant que le niveau où la plupart des gens du monde mettent leur fin aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire de description. Comme disait un auteur, que ceux qui croient que le bonheur de l'homme consiste dans les plaisirs des sens, qu'ils s'en saoulent et qu'ils en meurent. Mais que ceux qui croient qu'ils ont une âme, eh bien, qu'ils s'élèvent au-dessus de ce monde corrompu et corrupteur. Qu'ils vivent dès à présent dans une atmosphère de pureté, dans une atmosphère de charité, dans une atmosphère de sainteté. Qu'ils fixent leur bonheur là où sont les vraies joies. Ô mon âme, s'écriait saint Augustin, tu es capable de Dieu, malheur à toi si tu te contentes de moins. Tu es capable de Dieu. Il faut le croire qu'on est capable de Dieu. On n'est pas capable de Dieu par nous-mêmes, mais puisque le bon Dieu veut nous transformer en lui, eh bien, faisons-lui confiance, vous voyez. Donc, il ne faut pas confondre l'exil et la patrie. Et surtout, ne pas demander, c'est un petit peu, je pense, parmi les conséquences qu'il faut tirer de cette méditation sur le ciel, ça doit être cela, ne pas demander à la terre les joies que le bon Dieu nous a réservées pour la patrie. Ne pas rechercher ici-bas ce que le bon Dieu nous a réservé pour le ciel. On peut dire que l'idéal de l'homme d'aujourd'hui se résume dans trois mots. Cool, zen, tranquille. Wow. Alors j'espère que ce n'est pas quand même votre idéal, vous voyez. Mes résolutions de retraite, ben voilà, ma chère époux, j'ai pris comme résolution cool, zen, tranquille. Non, j'espère que c'est un peu plus haut quand même, hein, un niveau un peu plus élevé, j'espère. Il faudrait plutôt imiter un saint Paul, vous voyez, saint Paul qui disait « Loin de chercher le repos ici-bas, n'avait qu'un souci, qu'un désir, qu'une orientation, faire le maximum de bien tant qu'il était encore sur la terre. » Ça, c'est vraiment la pensée qu'on doit avoir. Vers la fin de sa vie, il disait aux Philippiens « Oubliant ce qui est en arrière, tendu vers ce qui est en avant, je cours au but, vers la récompense à laquelle le bon Dieu m'appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. » Ça, c'est une âme magnanime, vous voyez. Oubliant ce qui est en arrière, donc j'oublie ce que j'ai déjà fait, je ne dis pas là, ouais, bah, vu tout ce que j'ai fait maintenant, je peux quand même me reposer, quand même, un petit peu, vous voyez. Oubliant ce qui est en arrière, tendu vers ce qui est en avant, je cours au but, vers la récompense à laquelle le bon Dieu m'appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. Donc avoir cette même confiance, une confiance vraiment profonde dans ce bonheur que le bon Dieu nous a préparé. Donc, ne songeons qu'au ciel, ne cherchons que le ciel, ne vivons que pour le ciel. Encore quelques instants, quelques années, ça passe si vite, ou quelques mois pour certains, peut-être, j'en sais rien, quelques dizaines d'années pour d'autres. Mais même si c'est 80 ans, ça viendra quand même très vite. Quelques efforts, et nous serons arrivés au terme. Quelques combats, et nous obtiendrons la victoire. Quelques sacrifices, et nous nous retrouverons tous dans la Jérusalem céleste, ainsi soit-il. Nous rendons à la chapelle pour une petite prière.
Sujet de ce soir.